Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro du Monde aujourd'hui. Jacques Aristide avec vous. Nous sommes le vendredi 1er juin 2018. À la une ce soir, le président américain confirme la tenue d'un sommet avec le dirigeant nord-coréen le 12 juin à Singapour.
But we're going to be June 12th. We'll be in Singapore.
L'Europe promet de riposter fermement aux tarifs douaniers imposés par les États-Unis. En RDC, de nouveaux combats signalés entre l'armée et les rebelles ADF près d'Eringeti. Massacre de 2009 en Guinée, mise en place d'un comité pour préparer le procès. Et puis ne manquez pas vos rendez-vous avec l'économie et les sports en fin de journal. Voilà, la nouvelle est tombée il y a quelques minutes. Le président américain Donald Trump vient de confirmer la tenue de son sommet avec Kim Jong-un le 12 juin à Singapour, après avoir reçu pendant plus d'une heure à la Maison-Blanche le bras droit du dirigeant nord-coréen. En s'exprimant devant la presse, le président américain a également affirmé que la Corée du Nord voulait dénucléariser et a prédit que le dialogue avec Pyongyang serait un processus couronné de succès. Le point avec Bagasikura.
Le président Trump a terminé sa rencontre avec le général Kim Jong-chol, émissaire de Kim Jong-un à la Maison-Blanche, qui lui a remis une lettre confidentielle du dirigeant nord-coréen. Le président Trump, à l'issue de ces entretiens, est allé très enthousiaste vers les journalistes pour confirmer la tenue du sommet le 12 juin à Singapour avec Kim Jong-un. Ce sera le début, mais je pense que vous aurez un résultat positif à la fin, mais pas en une seule rencontre. Il a aussi félicité Mike Pompeo, son chef de la diplomatie, pour le travail accompli, rendant ce sommet historique possible. Il a remercié la Chine, la Corée du Sud et le Japon, disant que ces pays ont contribué à cette rencontre.
Les taxes américaines sur l'acier et l'aluminium ont provoqué de vives réactions dans le monde entier. L'Union européenne, le Canada et le Mexique promettent de riposter. Bruxelles a déjà saisi l'OMC pour une plainte contre Washington. Eric Manirakiza.
Le Canada a d'ores et déjà annoncé des taxes sur des produits américains d'une valeur de près de 13 milliards de dollars américains. Le ministre canadien des Finances a qualifié la décision de Washington d'absurde. Paris a déclaré qu'il n'y aura pas de négociation sous la pression de ces taxes punitives des États-Unis. Berlin a demandé à l'Union européenne de réagir de manière ferme pour protéger les milliers d'emplois en Europe. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a souligné que l'Union européenne défendra ses intérêts pour contrer l'offensive commerciale américaine. Bruxelles a porté le cas devant l'OMC et va imposer des droits de douane supplémentaires sur certains produits importés des États-Unis. Le secrétaire général de l'OCDE a appelé à sauver le multilatéralisme, estimant que le moment est critique pour son avenir et la planète. De son côté, le président français Emmanuel Macron veut la refondation de l'OMC comme meilleur moyen de défendre le libre-échange. La décision américaine est intervenue au premier jour du G7 Finance qui se déroule dans la station de ski Whistler dans l'ouest du Canada.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Dans l'actualité africaine, en République démocratique du Congo, trois policiers ont été tués au cours d'une attaque perpétrée par des assaillants armés la nuit dernière à Butembo, dans la province du Nord Kivu. Le commissariat de police de la ville a été pris pour cible. Les armes des policiers tués ont été emportées. Par ailleurs, des combats ont opposé les forces armées congolaises aux rebelles ougandais ADF ce vendredi au village Kokola, près d'Eringeti. Selon un porte-parole de l'armée, un rebelle ADF a été tué et un soldat a été blessé. Un véhicule militaire a été incendié. En Guinée, le ministère de la Justice a mis en place ce vendredi le comité de pilotage chargé de préparer le procès du massacre de septembre 2009 dans un stade de Conakry qui avait fait plus de 150 morts. La création de ce comité avait été annoncée fin décembre lorsque la justice a mis fin à une enquête de 8 ans et renvoyé 14 prévenus devant un tribunal correctionnel, puis avait fait l'objet d'un arrêté ministériel en avril. Placé sous l'autorité du nouveau Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, le comité de 13 membres est présidé par le ministre de la Justice, Cheikh Sako. Il compte dans ses rangs des représentants des institutions judiciaires, de la police ainsi que des représentants de la société civile, de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, de l'Union européenne, de l'ONU ou encore de l'ambassade des États-Unis. Au Mali, une marche de l'opposition est maintenue pour demain samedi à Bamako, malgré son interdiction par les autorités en raison de l'état d'urgence en cours dans le pays. Pour les organisateurs, il s'agit d'une marche pacifique pour réclamer la tenue de bonnes élections présidentielles et l'équité dans le traitement de l'information par la télévision d'État de la capitale malienne, Kassim Traoré.
Dans la capitale malienne, les regards sont tournés vers cette grande marche de l'opposition et une coalition de la société civile. Noum Togo, secrétaire à la communication du chef de file de l'opposition.
Quelqu'un ne peut pas nous demander de ne pas marcher parce que nous avons un droit constitutionnel que nous sommes en train de montrer selon la loi. Les associations, les partis politiques ont le droit de marcher. Surtout, nous sommes en train de marcher sur la légalité et nous sommes en train de demander des droits pour le peuple malien. Premièrement, une organisation d'élections libres et démocratiques et la libération de l'ORTM.
Le gouverneur du district de Bamako, qui a fait un communiqué pour interdire cette marche, évoque la situation d'état d'urgence.
Et tout récemment, vous avez remarqué que les déplacements du président de la République, que ce soit à Koutiala, que ce soit à Tigasso, que ce soit dans le mandat profond, donc il y avait le cadre d'urgence, mais il y a eu des activités. Nous avons vu aussi tout récemment la sortie grandiose du chef de file de l'opposition pour le meeting au 26 mars. Nous avons vu aussi des maulous se tenir ici, il y a des cadres d'urgence. Donc ça, ce sont des arguments qui sont légers pour nous dire de ne pas marcher. Parce que pour nous, c'est des droits constitutionnels et nous marchons de façon légale.
Déjà, les initiateurs multiplient la sensibilisation pour dire à tout le monde qu'il s'agit d'une marche pacifique. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
12 militants islamistes somaliens Shebab ont été tués hier lors d'une frappe aérienne menée par l'armée américaine dans le cadre de l'offensive conduite par ces rebelles djihadistes. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le commandement américain pour l'Afrique. Aucun civil n'a été tué d'après l'armée américaine. C'est la 11e frappe américaine depuis le début de l'année contre les Shebab qui tentent depuis 2007 de renverser les gouvernements somaliens successifs soutenus par la communauté internationale. Au Togo, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, poursuit ce vendredi sa tournée d'une semaine dans le nord du pays. À Sokodé, il a rendu visite à la famille d'un responsable de son parti ANC, décédé en avril dernier, après la répression des manifestations de la coalition de l'opposition. Le pays est paralysé depuis plusieurs mois par une crise politique. Les manifestations sont interdites à Sokodé et dans deux autres villes du nord depuis le 16 octobre dernier, après des violents heurts entre la population les forces de l'ordre, ayant fait 4 morts, 2 adolescents et 2 soldats lynchés par la foule. Les opposants réclament le départ du président Faure Gnassingbé. Le dialogue politique entamé depuis le 19 février dernier sous l'égide du président ghanéen est aujourd'hui au point mort, après seulement 3 séances de discussion. L'ONU a publié un communiqué faisant état de la mort d'une douzaine de migrants en Libye. Ils étaient maintenus en captivité et torturés. Le 23 mai, ils ont été tués par balle par leurs ravisseurs alors qu'ils tentaient de s'évader. Le point avec Marie Benson.
L'ONU a déclaré que 12 migrants ont été tués par des trafiquants d'êtres humains le 23 mai à Bani Walid, à 170 km de Tripoli. Selon les Nations Unies, ils ont essayé de s'évader d'un camp où ils étaient détenus et torturés, certains pendant des années. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, environ 200 Érythréens, Éthiopiens et Somaliens étaient maintenus en captivité. Bani Walid est un lieu de transit pour les migrants clandestins qui veulent aller en Europe. Cette ville compte une vingtaine de centres illégaux de détention de migrants. En 2017, une vidéo montrant un marché aux esclaves en Libye avait soulevé une indignation mondiale.
Libye toujours, l'ONU indique ce vendredi qu'au moins 17 civils ont été tués ces deux dernières semaines dans l'offensive militaire lancée début mai par l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, contre Derna, ville contrôlée par des islamistes. Selon l'ONU, l'escalade des combats à Derna a atteint des niveaux sans précédent la semaine dernière, avec des combats qui empiètent de plus en plus sur des zones densément peuplées. En Guinée équatoriale, le leader du principal parti d'opposition affirme qu'un de ses proches a été assassiné à la prison centrale de Malabo, d'après Gabriel Obiang, dont le Parti citoyen pour l'innovation a été dissous en février dernier. La tête de son cousin Evaristo Sima présentait des coups. Il s'agit d'un assassinat d'État, dit-il. Ancien capitaine de l'armée, Evaristo Sima avait été condamné à 4 ans de prison pour désertion. L'Union européenne s'est dit inquiète de la forte détérioration de la situation des droits de l'homme en Guinée équatoriale. En Tanzanie, l'un des fondateurs du blog Jamii Forum a été relaxé ce vendredi. Maxence Melo a été inculpé notamment pour avoir refusé de révéler à la police l'identité de contributeurs ayant critiqué les autorités. Son site de lanceur d'alerte, l'un des plus influents du pays, dénonce notamment la corruption et l'évasion fiscale. D'après le tribunal de Kisutu à Dar es Salaam, les preuves présentées contre lui sont sans fondement. Et puis, sachez que le chanteur congolais Koffi Olomide sera jugé en France. L'artiste de 61 ans est accusé d'avoir à plusieurs reprises agressé sexuellement et séquestré quatre de ses danseuses en région parisienne entre 2002 et 2006. Depuis 2009, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Proclamé roi de la rumba depuis la mort de Papa Wemba en 2016, Koffi Olomide avait été écroué 4 jours cette même année pour avoir donné un violent coup de pied à l'une de ses danseuses. Il avait alors été libéré sous caution. Toujours dans le monde musical, le rappeur nigérian Falz enflamme la toile avec This is Nigeria, plus de 2,8 millions de vues en une semaine, une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, en condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
L'impact économique et social des flux migratoires sur l'Afrique a révélé la prédominance des flux migratoires intra-africains. Les 5 principales destinations africaines sont notamment l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Kenya et la Libye. Par exemple, les émigrés ont contribué au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire à hauteur de 19% en 2008, du Rwanda pour 13% en 2012, de l'Afrique du Sud pour 9% en 2011. En 2017, 17 millions de migrants ont quitté l'Afrique et 19 millions se sont déplacés sur le continent qui a aussi accueilli 5,5 millions de personnes venues d'ailleurs. Le principal motif du départ est l'espoir de trouver un travail mieux rémunéré. L'OMS enjoint aux États de développer une véritable politique de lutte. On réduit la demande en tabac et près d'un sur 8 devrait atteindre la cible de réduction de 30% d'ici à 2025. Aux États-Unis, le taux de chômage recule à moins de 4% avec de solides embauches en mai.
Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Le match Luxembourg-Sénégal en préparation du Mondial 2018 a laissé des traces.
Cette rencontre amicale 0-0 a fait 3 blessés chez les Lions de la Teranga. Il s'agit de Saliou Cisse, Ismaël Assar et Mambiram Diouf. Les médias sénégalais précisent que le joueur de Stoke City, Mambiram Diouf, doit subir des tests pour voir s'il n'a pas une commotion cérébrale. L'attaquant des Lions de la Teranga s'est cogné la tête avec Carlson Drake, milieu de terrain luxembourgeois. Il a tenu sa place jusqu'à la fin du match, mais une fois dans les vestiaires, il s'est manifestement senti mal et a été évacué à l'hôpital. Ismaël Assar, lui, s'est blessé à la cheville à la 70e minute de jeu. Même blessure pour Saliou Cisse qui a reçu une bonne semelle.
Le 13e trophée de la Champions League a rejoint la vitrine du Real.
Le trophée de la Ligue des Champions 2017-2018, 13e de l'histoire du Real Madrid, a pris place dans la vitrine du stade Santiago Bernabéu qui, selon la presse espagnole, a dû être agrandi après ce 4e titre remporté en 5 ans. Les 13 trophées alignés sont visibles dans l'une des salles du musée du club. Après la finale, il a néanmoins fallu une semaine avant que cette nouvelle coupe aux grandes oreilles ne trouve sa place.
Cyclisme, le vélo de Froome a été contrôlé 6 fois sur le Tour d'Italie.
Et oui, le vélo du Britannique Chris Froome, vainqueur du Tour d'Italie, a été contrôlé 6 fois durant l'épreuve par l'Union cycliste internationale qui a fait de la lutte contre la fraude technologique une de ses priorités. La monture de Froome a notamment été contrôlée à l'issue de la 19e étape remportée par le Britannique après une attaque à 80 km de l'arrivée sur une route en terre, le col le plus dur de cette 101e édition. Au total, les commissaires de l'UCI ont contrôlé les vélos de 58 coureurs.
Et puis, tennis, Djokovic a survécu au combat contre Bautista au 3e tour de Roland-Garros.
L'ex numéro 1 mondial Novak Djokovic a tenu pendant près de 4 heures face à l'Espagnol en 4-7. Le Serbe a failli se retrouver en très mauvaise posture quand l'Espagnol l'a servi pour le 3e set à 5-3. Il a alors inversé durablement la tendance pour remporter cette manche au tie-break, puis la suivante plus aisément sous une pluie fine. En huitième de finale, Djoko affrontera un autre Espagnol, Fernando Verdasco, 35e mondial, tombeur du numéro 5, le Bulgare Grigor Dimitrov.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. D'emblée, gros plan sur la grève de la fonction publique qui se poursuit au Tchad. Les travailleurs ont catégoriquement dit non à une proposition du gouvernement. Laquelle proposition suscite des interrogations? Il s'agit de paiements en nature pour remplacer les coupes salariales des fonctionnaires. Les avocats, huissiers et notaires du pays se sont joints hier à cette grogne sociale généralisée pour soutenir un avocat pris à partie par des forces de l'ordre. De Djamena, le reportage de notre correspondant André Kodmajingar.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Nous allons revenir à ce reportage de notre correspondant André Kodmajingar. C'est un reportage qui a trait à la grève de la fonction publique au Tchad. Nous l'écoutons.
Cinquième jour de la grève sèche et illimitée lancée par la plateforme syndicale revendicative pour réclamer le paiement intégral de salaire des agents de l'État à partir de ce mois de mai et le remboursement de leur salaire coupé depuis janvier 2018. Grève qui paralyse l'administration tchadienne, surtout les établissements d'enseignement public. Ces établissements sont fermés à quelques jours des examens de fin d'année. Certaines écoles privées à l'intérieur du pays ferment également leurs portes de peur d'être perturbées par les élèves du public. Quelques élèves interrogés dans la rue de N'Djamena expriment leur inquiétude.
Nous sommes à quelques pas de l'examen. On ne vient pas à l'école, c'est arrêté comme ça. C'est un peu inquiétant, quoi. Si la grève persiste, on ne sait pas. Peut-être ils vont adopter la méthode de 2007. C'est les militaires qui ont surveillé en 2007. Donc, ça serait peut-être la même chose. On ne trouve pas normal, mais ici, on n'a pas le choix.
On n'a pas fini les programmes. Et maintenant que nous sommes en grève, on ne sait pas quoi faire pour aller composer le bac. Donc, c'est un peu malheureux pour nous.
On était d'abord à la maison plus de 2 mois et nous on s'inquiète, est-ce qu'on va arriver à composer ou pas? On demande simplement à l'autre gouvernement de penser à nous, à notre avenir qui est en jeu.
Entre-temps, le gouvernement tourne en rond. Il propose de payer en nature les salaires coupés en attendant une embellie financière. Les travailleurs n'adhèrent pas à cette proposition. Guébana Samuel est le président du comité de suivi de la grève de la plateforme syndicale.
Ce sont des pures et simples diversions pour nous endormir. Notre phrase cruciale, gouvernement, verse-nous notre salaire intégral.
Le personnel judiciaire vient d'entrer dans la danse. Les magistrats et avocats du Tchad déclenchent eux aussi une grève dans toutes les juridictions du pays. Ils protestent ainsi contre la tentative d'assassinat dont Maître Doumra Manassé a fait l'objet le 22 mai dernier à Toba, chef-lieu de la région de Logone orientale au sud du Tchad, à sa sortie du tribunal où il avait obtenu la libération de ses 3 clients. Il conditionne la reprise des activités au parquet par le départ du gouverneur et du commandant de la Légion de la gendarmerie. Le secrétaire général de l'Ordre des avocats du Tchad, Maître Kamtok Emmanuel, est dur.
Les professions judiciaires libérales rappellent que les décisions de justice peuvent être attaquées par les voies de recours. Le pouvoir judiciaire, troisième pouvoir, ne se mêle pas de ce que fait l'exécutif, ni le législatif, encore moins de ce que font les hommes en tenue. Et nous sommes prêts à mourir en robe.
André Kodmajingar N'Djamena, VO Afrique.
Plus de peine de mort au Burkina Faso. Le Parlement a adopté hier, à 83 pour et 42 contre, un nouveau code pénal abolissant la peine capitale. Les critiques disent que c'est une loi taillée sur mesure pour faciliter l'extradition de François Compaoré, le frère de Blaise Compaoré, actuellement entre les mains de la justice française. Pour une analyse, Bagassi Koura joint Ali Sanou, le secrétaire général du mouvement burkinabé des droits humains et des peuples.
Depuis la dernière ouverture du code pénal dans notre pays, qui date de 1996, les organisations de défense des droits humains, dont justement le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, ont entrepris une série d'actions en vue de convaincre les autorités d'abolir la peine de mort dans notre législation, parce que nous estimons toujours qu'il s'agissait là d'une peine qui constituait une violation du droit intangible à la vie. Parce que pour nous, organisation des droits humains, aucune raison ne peut justifier qu'un État puisse ôter la vie à un individu, dans la mesure où, comme je l'ai dit, le droit à la vie est un droit intangible.
À votre avis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu changer ça plus tôt?
Il faut dire que c'était un processus qui a été long, mais qui date de plusieurs années. Le Burkina Faso a, par exemple, souscrit aux différents moratoires des Nations Unies sur la non-exécution de la peine de mort, et qui marquait quand même la volonté des autorités d'aller vers l'abolition de la peine de mort. Par la suite, déjà en octobre 2014, un conseil des ministres avait adopté un projet de loi visant à abolir la peine de mort, mais par la suite, après l'insurrection populaire, naturellement le renversement du gouvernement de Blaise Compaoré, ce projet de loi n'a pas pu être conduit à son terme.
Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que c'est une loi taillée sur mesure, notamment pour faciliter l'extradition de François Compaoré, le petit frère de Blaise Compaoré, qui est aujourd'hui en France?
Déjà, nous avons deux observations là-dessus. La première, c'est que pour avoir suivi le processus de très près, il faut dire que c'est un processus qui est antérieur à la demande d'extradition de François Compaoré au Burkina Faso. Et je ne pense pas qu'il y ait un lien direct entre l'abolition de la peine de mort aujourd'hui et la procédure judiciaire en cours pour l'extradition de François Compaoré. Mais deuxièmement, à supposer qu'il y ait un lien direct, je pense que pour nous, en tant que défenseurs des droits humains et combattants contre l'impunité, si l'abolition de la peine de mort peut faciliter le fait que François Compaoré vienne répondre au Burkina Faso des actes qui lui sont reprochés devant la justice au Burkina Faso, nous applaudirons dès demain. Donc je dis que c'est une abolition qui arrive au bon moment, surtout si elle peut permettre de faire sauter un argument qui militait en faveur de la non-comparution de François Compaoré devant la juridiction de son pays.
Au Cameroun, une start-up veut créer des opportunités pour les jeunes du pays dans le monde de la mode. Dans un univers jadis fermé, la création de Vorst en 2014 constitue pour des aspirants mannequins l'aubaine de leur vie. Notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Julentap, a assisté à une séance de casting gratuit de jeunes mannequins camerounais. Voici son reportage.
En plein air, autour du monument Charles Atangana à Yaoundé, une vingtaine de jeunes filles et garçons participent à un casting de sélection des mannequins organisé par la start-up camerounaise Forst. Joël et Lucie sont parmi les candidates du jour et espèrent pouvoir réaliser leur rêve, devenir mannequin.
Je ne peux pas mourir sans monter sur un podium, sans défiler devant des grandes personnalités. Pourquoi pas créer ma part quand je serai déjà connue? Quand je serai déjà mannequin.
Le style, les vêtements et tout, la démarche, c'est un truc vraiment qui me plaît. Vous savez, les femmes jouent un très grand rôle et je pense que avec mon feeling, je pourrais.
Au menu du casting, quelques passages devant le jury et des questions de culture générale adressées aux candidats. Un exercice auquel le jeune Stéphane et Joël se sont déjà livrés plus d'une fois, avec au bout des fortunes diverses.
Un truc comme la mode. Je fais d'abord confiance en mon potentiel d'abord. C'est la raison pour laquelle je parviens à arriver dans des lieux comme ça.
Embrasser carré dans la mode et le mannequinat, ce n'est pas facile. On vous renvoie dans une semaine, les résultats vont sortir, mais bon, à la fin, on se rend compte que les résultats ne sortent pas. Ils truquent entre eux là-bas et quand vous envoyez les messages, ils ne vous répondent plus.
Au Cameroun, la carrière de mannequin ne s'ouvre pas au premier venu. Tout comme avoir une ligne de vêtements connue n'est pas à la portée de tous. Deux gros défis que la start-up Force commence à relever. Ingrid Kana, promotrice de la start-up Mode Force.
Une agence vit par ses modèles et vit sur les contrats que certains clients, notamment les événements, les événementiels, des showrooms, des défilés, des stylistes qui ont besoin de faire vivre leur marque. Comme vous avez vu tout à l'heure, ce jeune Camerounais qui veut développer sa marque, Chomemo, Voss vivra avec ses modèles.
Fort heureusement, des fleurons de la mode émergent et offrent des carrières de mannequins à d'autres jeunes. Stéphane Djounang est l'un d'eux. Il est créateur de la ligne de vêtements Chomemo, qui habille une dizaine de chanteurs camerounais.
J'ai 23 collections déjà sur le marché. J'ai une ligne de vêtements. Et quand on parle de ligne de vêtements, c'est-à-dire qu'on trouve tout. Chemise, costume, pantalon, jaquette, t-shirt, par-dessus, donc tout.
Chaque fin d'année, le Cameroun abrite un grand rendez-vous de la mode dénommé Annual Show. Un événement qui exclut certains jeunes modélistes et mannequins en quête de notoriété. On comprend dès lors pourquoi la start-up Force suscite de nombreux espoirs. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Cheikh Thierro. C'était notre ami Thomas Blondet qui était à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite un excellent week-end sur VOA Afrique. À très bientôt. Take care.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio. Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM. Au Tchad.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Au moins 16 personnes ont été tuées dans l'attaque du 1er mai à Notre-Dame de Fatima, église catholique de la capitale centrafricaine, Bangui. Elle était le fait d'un groupe criminel dénommé Force, opérant dans le quartier majoritairement musulman du PK5. Le curé de la paroisse, le père Tunguma Lebaba, figurait parmi les morts. Une violente foule a ensuite attaqué une mosquée à La Kunga, dans la banlieue de Bangui. L'ambassade américaine en République centrafricaine a publié une déclaration exprimant l'horreur et la tristesse au sujet de l'attaque insensée de l'église de Fatima et des représailles subséquentes contre la mosquée de La Kunga. Nous pleurons les décès, de même que les cas de blessures résultant de cet acte criminel, a fait savoir l'ambassade. Nous adressons nos condoléances les plus attristées aux familles. Les individus à l'origine de cet acte sont des lâches. Ils ne représentent ni les musulmans ni les chrétiens. Ils ne représentent pas les centrafricains. Ils cherchent seulement à provoquer une sanglante réaction. Les États-Unis exhortent tous les citoyens de la République centrafricaine à ne pas tomber dans le piège de la violence et de la revanche. Cela doit cesser. Les États-Unis condamnent ces actes sans réserve et nous nous tenons aux côtés de tous les Centrafricains et prient de paix. Les États-Unis comprennent tout à fait la profonde colère que ressentent les gens actuellement, mais nous implorons tous les citoyens à renoncer à la violence et à regagner leur demeure pour éviter la poursuite du bain de sang. Ce cycle doit cesser pour le bien des enfants du pays et de tout son peuple.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
bienvenue à bord.